On va donc pouvoir aborder la dernière partie de cette journée par donc une table ronde qui va être donc animée par Vincent Chapdelaine. Je vais vous en présenter les différents participants. Donc cette table ronde va regrouper Michel Briand, qui est responsable de formation à Télécom Bretagne et membre du Conseil national du numérique. Michel Briand, qui est là, donc voilà. Lionel Dujol, qu'on ne présente plus, mais si, qu'on présente quand même, responsable du développement numérique au sein de la direction de la lecture publique du réseau des médiathèques Valence Romans Sud Rhône-Alpes, qui est là. Audric Guédan, qui est responsable de l'espace public numérique de la médiathèque François Mitterrand, dans le réseau de la communauté le réseau des médiathèques de la communauté d'agglomération du plateau de Saclay, et qui est donc manager du Fab Lab mobile de la ville des Ulysses. Voilà. Ophélie Ramonaccio, conservatrice des bibliothèques, chargée du livre et des médiathèques à l'Institut français de Madrid, et anciennement à l'Institut français du Royaume-Uni, spécialiste des rénovations et modernisations de bibliothèques. Voilà, donc je laisse la parole à Vincent pour cette table ronde, et n'hésitez pas à poser vos questions. Le Wi-Fi doit fonctionner à nouveau normalement, et donc vous pouvez poser des questions aussi via le Wi-Fi. Merci.
Merci beaucoup, Silver. Alors, on a environ 1h30 pour cette table ronde. La façon qu'on prévoyait de diviser les échanges, c'était de la façon suivante. Donc, on va, pendant 45 minutes, échanger entre les intervenants ici en avant. Et ensuite, la parole sera à vous. Donc, vous pourrez soit intervenir pour compléter les échanges qu'il y aurait eu ou poser des questions à un des quatre intervenants ou des questions transversales pour tous. Donc, c'est l'occasion de creuser des idées ou des enjeux qu'on a pu adresser ce matin. Donc, pour commencer, je vais inviter chacun à tour de rôle d'expliquer un peu leur projet, mettre un peu en contexte les projets qui les animent par rapport aux bibliothèques et aux espaces de collaboration dans leur milieu respectif. Alors, je vais dès maintenant passer la parole à Michel Briand, qui va nous expliquer un peu son expérience en tant qu'élu à Brest et tous les travaux collaboratifs que vous avez pu initier en Bretagne. Je vous laisse la parole.
Merci, Vincent. Donc, merci de cette invitation à parler un petit peu de cette dimension de la société contributive qui se met en place. Donc, je le ferai un petit peu à double titre. Celui d'élu au local, au numérique, que j'ai été pendant 19 ans, de 1995 à 2014. Je ne me suis pas représenté aux dernières élections. À trois mandats, ça fait déjà pas mal. Et donc, on a mis en place toute une approche qu'on appelle contributive, que je vais vous présenter très rapidement. Et puis, cette démarche un petit peu de compréhension de la transition vers une société contributive, c'est aussi le sens du travail du Conseil national du numérique, qui a notamment publié récemment deux rapports, un premier sur la citoyenneté à l'heure du numérique en novembre 2013, qui explique un peu les idées de littératie numérique, de médiation numérique, et insiste sur l'importance en fait que de faciliter la capacité d'agir des personnes à l'heure du numérique, ce qui a été aussi présenté ce matin, et en indiquant qu'on avait un petit peu dépassé le temps des fractures numériques. C'est vrai qu'il reste encore des inégalités, mais aujourd'hui, les jeunes des quartiers populaires sont plus équipés que les jeunes du centre-ville avec des téléphones portables et des PDA. Et en fait, sur le numérique, tout le monde a besoin d'être inclus numériquement. Les outils qui arrivent, les nouveaux usages, nous concerne tous, et on peut être à l'aise aujourd'hui et plus en difficulté demain. Et comme je pense vous pouvez le constater, souvent les élus et les décideurs, directeurs généraux des collectivités, ne sont pas forcément les personnes qui sont les plus inclus numériquement. Et donc on a essayé d'expliquer un peu quelques pistes un peu pour développer une société plus contributive qui rejoigne effectivement les notions d'espace collaboratif et ouvert que Vincent a présenté ce matin. Et je présenterai donc aussi donc un petit peu la démarche brestoise qui a été mise en œuvre et qui aboutit aujourd'hui à un réseau coopératif professionnel qui s'appelle Doca Brest, que je vais vous présenter. Donc, pour juste un petit peu introduire, en fait, cette démarche qu'on a développée, elle s'appuie sur du faire avec, c'est-à-dire de quand je suis arrivé, on voulait juste informatiser les bibliothèques sur Brest, et puis à chaque fois qu'on proposait quelque chose, il fallait que ça s'applique à toutes les bibliothèques. Alors que ce que j'ai pu développer pour les points d'accès public dans la ville, c'est absolument le contraire. On démarre avec ceux qui veulent faire, ils font, et petit à petit, ça se diffuse. Il y a eu 12 ans d'écart entre le premier point d'accès public à Internet dans un équipement de quartier et le dernier. Mais au bout de 12 ans, il n'y avait pas un seul équipement de quartier, centre social, maison pour tous, bibliothèque, mairie de quartier, qui n'était pas point d'accès public à Internet. Et aujourd'hui, sur Brest, il y en a 108. Donc, les démarches de l'innovation sont des démarches ascendantes où on avance au rythme des gens. Il faut parfois 10 ans pour que quelqu'un y arrive, mais au moins, tout le monde s'y met progressivement. Le deuxième élément structurant de cette démarche d'élus soucieuse un peu d'une approche contributive, c'est être en attention. Être en attention, ça veut dire regarder ceux qui ont envie de faire sur le territoire et donc leur donner la possibilité d'agir. On a pour ça un appel à projet sur la ville de Brest qui est en fait un appel à envie. En 2013, 43 projets présentés, 42 retenus parce qu'il y en avait un qui était un projet personnel et qui ne rentrait pas dans le cadre, mais l'idée c'est qu'on soutient tout le monde. C'est absolument le contraire de ce qu'a fait le ministère de la Culture, qu'a fait le ministère pour les Fab Labs. Il y avait un appel à projet national, 145 ou 150 projets présentés, 15 retenus, et tous les projets secrets. Projets pas publiés, on ne sait pas qui a été retenu, pourquoi, et on ne sait pas ce que les gens font, alors qu'on aurait publié les 150 projets, il y avait sûrement 150 très bonnes idées. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans la société numérique, c'est de donner à voir ce que l'on fait. Et en donnant à voir, comme vous le faites aujourd'hui à travers le forum, eh bien, ça donne des idées, ça donne des envies, ça connecte les personnes, ça les relie. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important qui n'est pas dans notre culture, apprendre à publier. Il faudrait effectivement qu'à l'école, il faudrait que dans nos collectivités, on apprenne à publier, qu'il y ait des sites contributifs ouverts. Moi, j'anime sur Brest des sites comme Attirer-Brest, où il y a 1500 visiteurs par jour. Le site fonctionne sans webmaster, c'est autogéré par des personnels de la ville, des responsables d'associations qui écrivent. On publie 20 articles par semaine, on reprend aussi des articles de Silver, de Lionel, des bibliothèques, beaucoup. Parce que en fait, les articles sont en Creative Commons, donc on peut les republier. Et ça permet d'avoir 50% d'articles locaux sur ce qui se passe sur le territoire et 50% de réflexions amenées par des acteurs. Et se donner à voir, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est une attitude. Quand on fait quelque chose et qu'on pense que c'est bien, il faut le donner à voir aux autres pour qu'ils puissent se réapproprier. Et puis après, il y a tout l'outillage, hein, donc on en a parlé avec les ateliers. Il faut savoir que faire un atelier par semaine dans une collectivité, c'est une demi-journée de préparation, une demi-journée pour l'atelier, c'est-à-dire 20% de temps plein. Donc un atelier par semaine, allez dire à vos élus et décideurs, ce n'est qu'un cinquième de temps plein. Dans une collectivité comme Brest, il y a 2000 emplois. C'est un dix-millième du coût. Donc ça ne coûte rien d'outiller les gens par rapport au budget. Coopérer, c'est vraiment important, apprendre à coopérer, parce que, comme je le disais ce matin, à l'école, on n'a pas appris à coopérer. On apprend à cacher notre copie, on apprend à être meilleur dans la classe, on n'apprend pas à travailler avec les autres. Or, toute la société du numérique, c'est une société de coopération. L'innovation sociale ouverte, la coopération, les pratiques collaboratives, c'est ça qui va effectivement se développer. Et ça ne se développe pas simplement pour des beaux idéaux, ça se développe aussi parce que c'est beaucoup plus efficient. Aujourd'hui, Wikipédia existe, Encarta de Microsoft est mort depuis longtemps, et tous les systèmes marchands équivalents sont morts. Le même débat se met aujourd'hui sur l'édition, pour les livres scolaires et autres, et c'est les systèmes collaboratifs qui sont les systèmes les plus efficients. Mettre en commun, c'est aussi quelque chose d'important qui est remis à l'ordre du jour par le numérique, c'est-à-dire que faire un réseau coopératif, à partir du moment où on sait que ce qu'on produit appartient à l'ensemble de la communauté, donc c'est les licences Creative Commons, c'est le logiciel libre, c'est Wikipédia, c'est OpenStreetMap, eh bien ça donne l'envie de faire et ça facilite la coopération. Aujourd'hui, un exemple typique, c'est le réseau Césamath de quelques centaines de profs de maths qui éditent ensemble des bouquins de mathématiques. Ils ont 20% de parts de marché dans les collèges et ça marche tellement bien qu'ils ont mis en place une plateforme globale. Cette plateforme a 1 million d'élèves en ligne. 1 million d'élèves en ligne pour une association avec 5 personnes qui n'est pas financé par l'éducation nationale. Donc ça, c'est la force du coopératif et de la société contributive. Et tout ça, donc, ça crée en fait une spirale vertueuse qui permet effectivement de développer les choses. Et c'est parce que, par exemple, cette dynamique se met en place qu'aujourd'hui, à Brest, s'est créé un réseau auto-organisé par les documentalistes et bibliothécaires où il y a 180 personnes inscrites. Donc 180 personnes fonctionnent dans ce réseau. Il n'a aucune structure juridique. Ils ont un site web, ils ont des pages Facebook, une liste de diffusion, et ils organisent des activités quasiment toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et maintenant, donc, quand vous avez 180 personnes sur un réseau, quand quelqu'un a besoin d'une formation sur Zotero, sur NetVibe, sur Twitter ou sur autre chose, il y a toujours quelqu'un qui est là pour donner un coup de main. Et en plus, comme c'est local, la personne fait l'atelier, mais en plus, la personne peut répondre ensuite à des questions. Et le fait que les gens se mettent en réseau de ce type-là, ça crée la possibilité de plein d'initiatives. Il y a un portail des savoirs qui publie toutes les conférences qui ont lieu sur Brest, qui est une initiative du réseau des bibliothèques municipales. Il y a un autre réseau sur les grainothèques pour développer les partages et les échanges de graines. Il y a eu, avec Lionel Morel, des copies parties qui ont été organisées. Dès que les gens sont en réseau coopératif, la possibilité de faire est beaucoup plus importante. Et quelque part, ça crée des espaces d'initiative, des espaces d'ouverture, où les personnes, si elles ont une envie, eh bien, elles s'organisent pour le faire. Et en général, je dirais, les responsables et les hiérarchiques, s'ils ne sont pas trop bornés, ils trouvent ça bien, parce que ça apporte de l'efficience. Et au lieu de payer des formations avec des déplacements de personnes à Rennes ou à Paris, de Brest, les gens se forment localement. Donc tout le monde est gagnant dans ce système-là. Et donc le système Doc à Brest a été repris par nos amis de Rennes qui ont créé Doc à Rennes, donc qui est aussi un réseau coopératif autour des bibliothèques et des documentalistes. Rennes a inventé les biblioremix, hein, les à la croix. Elle est venue présenter ça à Brest, on en a fait deux ou trois sur Brest, et c'est comme ça que ça avance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai vu d'autres choses que vous avez faites, j'ai essayé d'inviter les personnes, et en échangeant, on avance très vite. Donc, ce qui est fondamental, c'est cette capacité à coopérer. Et donc, ça dépend de vous. Vous pouvez, sur vos territoires, créer des réseaux coopératifs. Vous pouvez organiser. C'est peut-être pas la peine de passer par des organismes de formation qui vont demander 1 000 euros par personne pour se former. Vous invitez la personne et puis vous vous cotisez et on s'organise. Et la formation, ça marche. Ne faisons pas des choses compliquées, faisons des choses simples et ouvrons des espaces d'initiative. Donc ça, c'est possible, ça existe sur différents territoires. Lionel pourra aussi en parler sur son territoire. Et je crois que c'est vraiment important d'avancer dans ce sens-là. Et pour terminer sur le volet du Conseil national du numérique, on estime en fait que ce qui est en train de se jouer, c'est une transition. C'est une transition vers une autre société qui va fonctionner autrement. Et ces transformations qui apparaissent, on n'en est qu'au début. Alors c'est vrai que quand vous regardez la salle de classe, ça n'a pas encore beaucoup bougé. Mais votre métier, vos métiers de bibliothécaire se sont beaucoup transformés. Les documentalistes et bibliothécaires sont parmi les métiers qui ont les plus évolué en France. Et de plus en plus, cette transformation va se mettre en place. Aujourd'hui, plusieurs études sont sorties en France, en Europe, aux États-Unis, qui indiquent que dans les 20 prochaines années, on va perdre entre 30 et 50% des emplois. C'est énorme. Et là, le ministre du Travail a confié une étude sur le travail en entreprise au DRH d'Orange, et le Conseil national du numérique met en place aussi un groupe de travail sur cette question avec Bernard Stiegler et Nathalie Andrieux. Et on va réfléchir comment va fonctionner la société dans les 20 ans à venir avec effectivement des millions de suppressions d'emplois. Ça ne veut pas dire que le travail va disparaître. Ça veut dire que les gens vont travailler autrement. On revient aux espaces de coworking. Ça veut dire que des gens peuvent travailler, et une des propositions, par exemple, de Bernard Stiegler, qui co-animera ce groupe du Conseil national du numérique, c'est de généraliser le statut des intermittents, c'est-à-dire qu'on peut estimer que des gens travaillent sur un projet, sont rémunérés sur un projet, et prennent du temps après pour se former, et qu'il y a une autre forme de solidarité qui se met en place, et qui n'est plus le keynésianisme, dans la mesure où la croissance n'existe plus en France et dans le monde, et qu'il faut trouver d'autres modèles d'organisation de la société. Et la transition numérique, c'est vraiment quelque chose qui va transformer nos sociétés, comme il y a la transition énergétique, comme il y a la transition du travail. Et je vous conseille, si vous voulez, un petit livre que vient de sortir la FIN, les cahiers de prospective numéro 5, qui sont en ligne sur le site de la Fondation Internet Nouvelle Génération, et qui explique ces trois transitions qui sont à l'œuvre. C'est important de les comprendre, parce que la transition écologique, on sait à peu près où ils veulent aller avec le développement durable. mais on ne sait pas comment y aller. La transition numérique, c'est l'inverse. On sait le faire, tous les jours ça avance très vite, mais on ne sait pas où on va. Et donc on a besoin de mettre en perspective ces trois transitions, de penser la société. Et donc c'est aussi vos responsabilités hein, de responsables de bibliothécaires, de bibliothèques, d'être acteurs de ces médiations numériques. Et la médiation numérique dans les années 2015, ce n'est plus l'accès aux outils, c'est maintenant justement de penser la transformation de la société, d'accompagner la mise en place de tiers-lieux, d'espaces de coworking, de Fab Lab, tout ce qui a été présenté ce matin. Merci.
Merci beaucoup Michel. Très intéressant et j'ai même envie de me risquer, avant de passer la parole à Lionel, à vous poser une question très rapide. Vous avez eu un poste d'observation assez particulier en tant qu'élu sur tous ces changements-là à Brest. Et vous appelez bon, les bibliothécaires d'un peu partout, les professionnels de la documentation à s'organiser et à travailler ensemble à accompagner cette transition-là. Quelle est votre perception par rapport au travail d'élus dans cette mouvance-là? Est-ce que vous avez un espoir que les élus de plus en plus deviennent sensibles et éduqués par rapport à tous ces changements-là?
Je ne suis pas très optimiste. Je ne suis pas très optimiste parce que, par exemple, les sites contributifs, qui est simplement l'idée d'ouvrir la parole aux habitants de la cité, j'ai jamais réussi à ce que ce soit reproduit dans une autre ville. Parce que dans le logiciel, en gros, des élus, donner la parole aux gens, c'est un risque. Ce que je peux vous dire, c'est que sur Attirer-Brest, on publie donc 1000 articles par an depuis 12 ans. 12 000 articles, jamais de problème. Mais ça ne suffit pas de constater objectivement qu'il n'y a pas de problème. Cette démarche contributive de faire avec les gens, de donner à voir, de mettre en réseau, elle n'est pas consubstantielle aujourd'hui à la fonction d'élu, qui est beaucoup plus en contrôle. Donc on aurait besoin de se former à la coopération. Mais je ne sais pas trop par quel bout le prendre. Le seul point positif, c'est effectivement que le monde économique change. Parce qu'effectivement, vous toutes, on utilise Le Bon Coin, on utilise les blogs. Donc, je dirais, dans la pratique sociale de plus en plus de personnes, on utilise des réseaux sociaux, on utilise des sites contributifs. Et donc, le monde réel change. Et donc, les élus sont bien obligés de se rendre compte de ce changement. Donc, des expériences qui ont été présentées ce matin montrent que c'est possible à quelques endroits, mais c'est vrai que, malheureusement, c'est un changement de culture. Et ce qui, à mon avis, est aussi central, c'est l'éducation. Après avoir créé Doc à Brest, je suis en train d'essayer de créer Prof à Brest. C'est pas simple d'amener les enseignants d'un territoire dans des dynamiques collaboratives. Donc, l'autre rapport du Conseil national du numérique, qui s'appelle Jules Ferry 3.0, parle effectivement d'une école créative et ouverte. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est pas de donner des savoirs, c'est d'apprendre à apprendre. Et là, il y a tout un monde qui s'ouvre, qu'il faut découvrir. Et je pense qu'on ne changera pas les choses d'en haut, parce que l'éducation nationale est une grande machine, et c'est comme pour vous. Les innovations viennent de la base. On est dans un monde d'innovation ascendante. Ce qu'on demande au ministère, c'est de laisser la possibilité d'innover, d'essayer. Et ce que vous avez à faire, vous, par contre, c'est publier ce que vous faites pour que les gens voient ce que vous faites et que ça se diffuse en réseau. Et ça va beaucoup plus vite.
Merci énormément. Alors, on va passer à Lionel qui publie ce qu'il fait. qui est souvent appelé à intervenir un peu partout, en France et dans la francophonie, sur la question de la médiation numérique, des bibliothèques participatives, des nouveaux usages. C'est quelqu'un qui connaît très bien le terrain et qui peut sans doute nous éclairer énormément par rapport à ces questions-là. Donc, je serais curieux de voir, Lionel, comment, de ton expérience, vois-tu l'arrivée de toutes ces pratiques-là? Est-ce que tu sens qu'il y a une réelle accélération des sensibilités par rapport à ces questions-là au niveau très terrain?
Alors, je vais te faire part de l'expérience de terrain que j'ai, puisque je travaille donc au sein d'un réseau de 12 bibliothèques qui rassemble à peu près 120 bibliothécaires, et dans une grande agglo qui est toute jeune, qui a un an à peine, et qui est en train de définir les compétences qu'elle va prendre, et elle a pris une compétence d'aménagement numérique du territoire, non pas par les infrastructures, mais par les usages. C'est assez intéressant. Bien. Donc l'aglo se tourne vers les médiathèques puisqu'elles nous ont repéré comme un des acteurs qui est important dans cette compétence-là. Donc super. Donc nous réfléchissons. Donc, je suis en charge du développement numérique. On essaie de constituer un projet numérique pour les 5 ans à venir pour ces bibliothèques. Et bien évidemment, on fait le constat de tout ce que nous décrivons depuis ce matin, notamment l'importance du faire, l'importance de la collaboration, du participatif, etc. Bien. J'essaie de construire un projet autour de ces notions-là, et je m'aperçois lorsque j'interroge, je reviens dans mon organisation, j'interroge, je dis quel projet nous pourrions développer, je m'aperçois que ça réagit extrêmement vite auprès des animateurs multimédia ou des médiateurs numériques, qui tout de suite nous ont fait des propositions, et d'ailleurs par cette semaine, nos ateliers par le faire, tout ce qu'on a décrit là-dessus. Et par contre, ce que je constate, c'est, je vais essayer de voir le mot, l'inertie de la part de mes collègues bibliothécaires qui ne saisissent pas cet enjeu-là. C'est-à-dire que tout d'un coup, je m'aperçois qu'il y a des cadres qui sont là pour donner une impulsion et qui, certes, lorsqu'on décrit ce qu'on a, ils sont assez séduits, ça les intéresse. C'est très bien ce qu'ils font, mais pas chez moi. Voilà. Ce qui est intéressant, et du coup, ça m'interroge, moi, parce que je dois porter dans le projet un développement numérique sur 5 ans. On me demande d'aller vers ces logiques-là, et je m'aperçois que l'organisation n'a pas cette maturité-là. Donc, mon interrogation aujourd'hui, elle est là. Elle dit, bon, OK, il va falloir faire un travail d'acculturation autour de ces cultures numériques, puisque le numérique, ce n'est pas des outils, enfin, du moins, ce sont des outils, mais aujourd'hui, le numérique dans les bibliothèques, c'est aussi une culture qui doit rentrer dans les organisations. Et moi, mon interrogation aujourd'hui, je n'ai pas de réponse, hein, c'est comment j'arrive à faire rentrer dans la bibliothèque en tant qu'organisation tous ces process qu'on a décrits. C'est-à-dire comment on arrive à bouger un tout petit peu le logiciel qu'il y a, l'organisation même à l'intérieur de la bibliothèque, pour faire comprendre aux bibliothécaires qu'il y a des nouvelles manières de partager le savoir, de l'accompagner, qu'on ne peut pas avoir le mythe de l'universalisme, c'est-à-dire que le bibliothécaire qui sait tout, qui peut tout savoir, qui est complètement un fantasme, hein, le bibliothécaire ne peut pas tout savoir, et qu'il a bien besoin des savoirs disponibles sur son territoire pour qu'il puisse justement accompagner. Et mon interrogation aujourd'hui, elle est là, c'est que je m'aperçois que j'ai un projet à construire autour de ce faire, et je m'aperçois qu'en face de moi, j'ai des collègues bibliothécaires qui l'entendent, mais qui ne se projettent absolument pas du tout dans ces logiques. Et donc, je me dis, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que finalement, on fait un petit peu au forcing, et au final, on s'aperçoit qu'on a des bibliothécaires qui ne se projettent pas dans une nouvelle bibliothèque, ou du moins qui ne sont pas capables d'inventer par eux-mêmes la bibliothèque, qu'on a vu ce matin, et je pense que c'est vain, on n'y arrivera pas. Ou alors, est-ce que tout d'abord, il faut hacker, entre guillemets, la bibliothèque et de dire comment j'arrive à expliquer qu'au sein de la bibliothèque, on peut arriver à mettre en place des process qui démontrent l'intérêt d'être dans ces logiques. Prendre un exemple tout bête, je suis très attaché, moi, à la notion de la pollinisation du savoir. Très souvent, au sein d'une bibliothèque, on a quelques personnes qui ont bien saisi les enjeux du numérique, et puis c'est vers eux qu'on se tourne, et c'est vers eux qu'on leur demande de porter tel ou tel service. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire comment ceux qui ont justement cette compréhension des enjeux arrivent à polliniser ce qu'ils savent auprès de leurs collègues. C'est-à-dire que l'expertise n'est plus l'affaire de 2 ou 3 personnes, mais devient tout d'un coup une expertise collective. Alors, soit on fait un modèle classique et que je pratique dans mon réseau, c'est-à-dire qu'on fait des interventions, on fait venir des gens qui font une conférence en intra, et puis d'ailleurs on discute autour de cela, soit alors on organise on utilise des outils qui sont beaucoup plus horizontaux, comme les camps, par exemple. Donc on organise chaque année l'équivalent d'un Explore Camp. Hein, le camp, vous savez tous ce que c'est, hein, c'est pas de conférence, c'est ce qu'on a fait cet après-midi, voilà, pour aller vite. Voilà, c'est exactement ça. Et dans lequel on demande auprès de tous les bibliothécaires qu'il y a des personnes volontaires pour nous présenter un nouvel usage que lui, il a découvert, ou un nouvel outil. Et puis, on a 5, 6, 7 personnes qui sont intéressées et qui, tout d'un coup, va présenter, sous le format qu'on a eu cet après-midi, à leurs collègues. Tout d'un coup, on a la démonstration que le savoir, il n'est pas simplement celui qui a l'étiquette numérique, mais qu'on s'aperçoit que tout d'un coup, quelqu'un que je côtoie tous les jours a tout d'un coup une expertise ou une pratique qui peut être intéressante. Et on s'aperçoit que par ces manières d'utiliser ces outils-là, on arrive à faire comprendre au final que organiser ça au sein même de la bibliothèque, en mettant un espace pour le coworking et tout, etc., on a tout d'un coup on a une compréhension de ce qui est là-dessus. C'est-à-dire que pour moi, il y a non seulement je sais ce que c'est, je sais faire et je sais être. Et c'est ça finalement qui est le plus important pour moi, c'est comment au sein même de l'organisation, on arrive à faire comprendre comment on peut être dans ces nouvelles formes de partage du savoir et des savoir-faire. Ça, c'est vraiment la problématique. Aujourd'hui, je n'ai pas de solution, c'est très problématique, puisque je m'aperçois que ceux qui sont capables de donner... On a même le cas où il y a des collègues qui ont très vite compris, mais qui ne se sentent pas légitimes de pouvoir, derrière, aller vers ça, parce que tout d'un coup, au-dessus d'eux, il n'y a pas l'impulsion qui est donnée. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est de se dire qu'il faut arrêter de regarder notre nombril et que est-ce que tout ce que l'on a décrit là peut être porté par d'autres acteurs du territoire et que la bibliothèque peut accueillir. Voilà. Ce n'est pas parce que la bibliothèque... Le retour qu'on me fait souvent, c'est que mais est-ce qu'un bibliothécaire doit animer un Fab Lab ? Ben non, justement. Ce n'est pas forcément un bibliothécaire qui doit... Il doit être un des acteurs du Fab Lab. Il ne doit pas être forcément celui qui va l'administrer.
Merci Lionel. Effectivement, je crois l'angle de voir le problème du point de vue organisationnel est très majeur. On a affaire autant à un changement de culture que la nécessité d'adapter des organisations avec des processus à des nouveaux usages, des nouveaux espaces. J'aimerais savoir rapidement, Lionel, à quel point tu crois que les organisations doivent vraiment adresser cette question-là en profondeur et réfléchir à leur processus organisationnel pour peut-être devenir des organisations encore plus souples et agiles. Et à quel point est-ce possible, vraiment?
Je sais pas.
Je t'avais dit que j'aurais des questions, Pierre.
Non, mais tu poses une très bonne question, mais je suis très désemparé, en fait. Je sais pas. Je pense, je sais pas. Bon. Je serais un peu je serais pas très optimiste, si tu veux. Je pense qu'on a besoin de s'ouvrir vers l'extérieur pour justement tirer justement tout ce qui est disponible sur le territoire et d'être ce lieu connexion. Je crois que c'est toi qui avais utilisé ce terme. On disait qu'on était passé d'une bibliothèque collection à une bibliothèque connexion. C'est-à-dire qu'au lieu d'être une bibliothèque qui... c'est-à-dire c'est un modèle assez intéressant. Hein, la bibliothèque un peu française s'est ouverte sur un principe qui était celui de donner accès au savoir. On donne accès on développe. Alors qu'on sent que dans les bibliothèques anglo-saxonnes, on est plutôt dans une logique qu'est-ce que la bibliothèque apporte à la communauté. Voilà. Et donc, elle apporte en donnant accès à. Mais on voit bien que l'angle n'est pas tout à fait le même. Voilà. Et aujourd'hui, on sent bien que ce qui nous interroge, c'est bien ça. C'est-à-dire que la collection est un élément de cette bibliothèque qui est utile à la communauté. Et je sens vraiment qu'il y a ce pivotement à faire qui n'est pas encore simple, c'est-à-dire de se dire que nos bibliothèques sont en train de devenir des bibliothèques qui connectent les savoirs et les savoir-faire sur des territoires dont elle en fait partie, mais elle n'est pas seule là-dessus. Et donc, du coup, c'est plus la bibliothèque qui donne simplement accès à de la collection, hein, c'est-à-dire que les gens viennent vers moi pour avoir accès à, mais tout d'un coup, c'est la bibliothèque qui dit « je suis un acteur utile pour vous, les communautés, en vous mettant ce genre d'éléments ». Et ça, c'est, me semble-t-il, quelque chose qui est encore un peu difficile à faire comprendre, parce que très, très vite... D'ailleurs, c'est assez intéressant, la médiation numérique, c'est le sujet que je connais un peu plus. Au début de la médiation numérique, on a parlé de médiation numérique des collections. C'est-à-dire qu'on avait rattaché ça à ce modèle de la collection. C'est-à-dire qu'on était, à quelques années de ça, je regarde Sylvère en disant ça, on était encore dans une approche qui n'était pas tout à fait mûre. Alors qu'aujourd'hui, on parle de médiation numérique, mais pour nous, le mot médiation numérique est un mot qui est beaucoup plus large dans le sens où on dit. Donc on voit bien qu'il y a ce pivotement qui n'est pas encore tout à fait fait En tous les cas, ce que je constate pour moi.
Merci. On va passer à Ophélie, qui a une expérience remarquable de gestion de bibliothèque et qui connaît aussi très bien l'approche anglo-saxonne. Est-ce que ton micro...
Un, deux.
Oui. Alors, si tu pouvais nous dire quelques mots sur tes observations à travers le réseau au Royaume-Uni et en Espagne. Tu connais aussi bien le réseau en France, donc tu as un bon point de vue pour dresser un portrait comparatif, disons, de ces différentes approches-là par rapport aux espaces, par rapport au positionnement de la bibliothèque dans les villes et auprès des communautés. Donc, je ne sais pas si vous avez des inspirations particulières à partager. On parle beaucoup des idea stores qui reviennent tout le temps quand on pense à des bibliothèques innovantes. Je suis sûr que vous avez un avis éclairé sur la question.
Est-ce que ça marche? Oui? Non, d'accord, on n'entend pas bien, on n'a pas bien le retour. Merci beaucoup pour l'invitation. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste de grand-chose et pas vraiment du sujet d'aujourd'hui, mais je suis vraiment contente de pouvoir intervenir. merci de m'avoir invitée. Non, moi, je peux donner un témoignage assez modeste. Déjà, moi, au niveau de mon parcours, j'ai une expérience en France en tant que responsable de médiathèque en Seine-Saint-Denis. Je dirais que c'était une première étape dans ma carrière, cette gestion-là. Et on parlait tout à l'heure de hanging around. L'idée d'une nouvelle médiathèque qui a été créée à Drancy, c'était justement de créer un espace de liberté avec le moins de contraintes possibles pour que le public puisse s'adonner à des usages non prescrits. Donc avec un grand bâtiment décloisonné, une ouverture 7 jours sur 7, ce qui était inédit en France à l'époque. Enfin, je crois qu'il y a Levallois aussi en bibliothèque publique qui ouvre 7 jours sur 7. Et puis beaucoup d'activités, un programme d'animation quasiment uniquement maîtrisé par les associations locales. Et puis à l'époque, il y a quelques années, beaucoup d'ateliers d'initiation à l'informatique, etc. On va dire que ça a été une première sensibilisation, mais comme beaucoup de responsables d'équipement ici. Pour moi, le choc culturel et professionnel, ça a été non pas le Royaume-Uni, mais grâce à la BPI, j'ai pu justement visiter les bibliothèques d'Helsinki. Et là, vraiment, on en a eu un aperçu ce matin. C'est vrai que là, c'est toute une philosophie qui change. Et puis, bien sûr, une organisation, un appel à des compétences extérieures qui paraissent difficiles à appliquer chez nous. Au Royaume-Uni, moi, j'y ai passé 4 ans, donc en tant que responsable des médiathèques françaises au Royaume-Uni au sein de l'Institut français. Quand j'y suis arrivée, bien sûr, en premier lieu, je me suis intéressée aux ID Stores dont on parle beaucoup. Donc, c'est vrai que les ID Stores, c'est un réseau de bibliothèques qui existe dans un des arrondissements de Londres. C'est un projet qui a été créé en fait à la fin des années 90. Qui est en fait très lié à l'arrivée au pouvoir du Labour Party et qui était vraiment construit autour de ces idées d'apprentissage, mais dans une visée créative de la population, parce que l'idée, c'était d'associer les services municipaux de formation continue et les bibliothèques publiques. Alors, ce qui est intéressant dans cette expérience des ID Stores, qui maintenant est en fait assez ancienne, c'est tout le travail qu'ils ont fait en amont de sondage, d'études auprès des publics locaux, pour déjà avoir une idée de leur perception du service existant de bibliothèque publique, et pour pouvoir aussi en déduire les développements qu'ils devraient apporter. Et ça a été un travail vraiment très très sérieux, très lourd qui a été mené. Il y a 10% des foyers de l'arrondissement qui ont participé activement à ces études, ce qui est à noter. Mais je dirais que malgré tout, encore maintenant aujourd'hui avec un peu de recul, les ID Stores continuent sur cette lancée. Qui, moi, me rappelle le travail que j'ai mené à Drancy, à une échelle plus modeste, mais ne sont pas aujourd'hui tellement préoccupés par ces questions de coopération. Et il y a plutôt un... l'effort qui a été fait, c'est les horaires d'ouverture, l'accès aux communautés. C'est vrai qu'ils se basent beaucoup sur cette question de communauté qui est centrale. embauchés, donc font partie des équipes vraiment des personnes du quartier, donc embaucher beaucoup de jeunes non professionnels, et le focus est mis sur l'animation des lieux et pas tellement sur la compétence en tant que bibliothécaire des personnels qui sont là. Et donc aujourd'hui, parce qu'ils suivent de très près leur activité, parce qu'ils doivent rendre compte en permanence dans le contexte que vous connaissez de fermeture de bibliothèque au Royaume-Uni, ils se rendent compte qu'ils ont peut-être laissé justement trop de côté l'aspect collection et vraiment cœur de métier bibliothèque. Et en fait, ils sont en train de se retourner vers ça, plus que d'aller de l'avant vers les usages coopératifs dont on a pu parler aujourd'hui. Mais bon, c'est de toute façon une question qui anime quand même beaucoup les réseaux au Royaume-Uni, où bon, il existe bien sûr un certain nombre de Fab Labs, dont, notamment un dont on a pas mal parlé, qui s'est installé dans une bibliothèque publique à Exeter, qui d'ailleurs organise une journée d'études sur le même sujet qu'aujourd'hui, je crois, dans 3 jours. Et il y a d'autres exemples intéressants. Donc moi, j'ai eu l'occasion aussi de visiter des learning centers avec justement, bon, alors tout le monde se revendique un peu comme le père des learning centers, mais bon, moi je crois que j'ai vraiment rencontré le père, Graham Bullpitt. Et tout ça pour dire que, bon, bah, ce contexte, moi j'ai essayé de m'en inspirer à Londres, très modestement à la médiathèque de l'Institut français, où on a mené un projet de rénovation des locaux et où on a demandé justement à Graham Bullpitt du Learning Center de Kingston et au directeur des ID Store de venir nous conseiller. Et on a essayé de décentrer dans un bâtiment quand même très, très lourd, dans une structure qui dépend de l'ambassade de France avec toutes les contraintes qu'on peut imaginer, de décentrer l'activité des collections vers vraiment les services. Juste avant que j'arrive à Londres, avait été développée aussi une plateforme numérique qui s'appelle CultureTech, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'est étoffée au fil des années, qui maintenant est très active et entre autres piloté par les utilisateurs aussi, avec la section blog qui est ouverte à tous les contributeurs volontaires. Voilà. Mais on reste quand même au Royaume-Uni dans un contexte de crise. Enfin, vous avez sans doute tous suivi ça. Depuis 10 ans, il y a 10% des bibliothèques qui ont fermé. Il y a à peu près le même ratio qui est géré uniquement par des bénévoles. Et voilà, on est vraiment dans une période de grosse crise. Il y a un des grands équipements phares qui a ouvert à Birmingham, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une des 3 plus grandes bibliothèques du monde, je crois. Et qui, là, il y a quelques semaines, a dû réduire de moitié ses horaires d'ouverture, alors qu'elle se présentait vraiment comme le symbole de l'innovation en médiathèque au Royaume-Uni. Et qui d'ailleurs dans sa conception reste assez classique, bon, malgré la présence de salles de travail en groupe, il y a une salle de contemplation room, un peu genre méditation, enfin, il y a des choses comme ça rigolotes, mais voilà, encore une fois, moi c'est mon témoignage vu de l'extérieur. Alors après, l'Espagne, j'y suis depuis assez récemment, donc j'ai pas tellement d'expertise sur la question. Ce que je peux dire, c'est que il y a pas mal d'initiatives collaboratives qui émergent en Espagne, mais qui se font sans les bibliothèques, enfin, moi de ce que j'ai vu. Donc on en discutait avec le collègue tout à l'heure du Café Pixel, voilà, beaucoup d'exemples de coworking, notamment à Valence. Et donc ce qu'il m'expliquait, je ne revendique pas, je savais pas, c'est qu'en Espagne il y avait vraiment une entité qui fédérait les initiatives de coworking, ce qui apparemment n'existe pas ailleurs. Mais bon, en tout cas, moi, pour les villes que je connais mieux, qui sont Barcelone et Madrid, voilà, beaucoup d'exemples de fabriques de création. À Madrid, il y a le Media Lab Prado qui est assez développé aussi, et qui d'ailleurs, on parlait tout à l'heure d'archiver la mémoire de ce qui se fabrique sur place, et eux, ils ont vraiment une bibliothèque qui archive vraiment tous les projets qui ont été créés sur place dans le Media Lab. Mais tout ça, ça se fait avec beaucoup de subventions publiques, avec un gros apport public, mais c'est déconnecté des bibliothèques. Voilà. Et du coup, à l'Institut français d'Espagne, je suis encore en observation pour voir ce que je pourrais développer dans la médiathèque, qui est une médiathèque qui a un énorme potentiel, mais voilà, qui a encore un fonctionnement très classique.
vous avez parlé rapidement, je crois que c'était avec l'exemple des Idea Store, où il y a plusieurs professionnels et même des citoyens qui ont été embauchés, intégrés à l'équipe pour faire de l'animation, développer des projets, et que ça l'avait peut-être eu comme conséquence de diminuer l'importance des collections, peut-être même un peu trop. La question du rôle du bibliothécaire revient fréquemment dans les discussions sur ce type de projet-là. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du rôle de bibliothécaire et la place de d'autres professionnels dans les bibliothèques qui sont peut-être moins impliqués actuellement ou en moins grand nombre?
Alors, juste pour revenir sur les ID Store, c'est pas exactement ce lien-là direct. Selon moi, ce qui a décentré peut-être les ID Store de leur mission première, mais qui est peut-être à rediscuter, c'est pas tellement le fait d'avoir embauché des personnes en local, c'est plutôt l'organisation et la gestion qui est basée sur une antenne centrale constituée d'assez peu de personnes qui gèrent tout ce qui est acquisition, etc. Et ensuite d'avoir sur place uniquement des médiateurs, mais qui ne connaissent vraiment, enfin qui n'ont pas été vraiment formés, je dirais, aux collections, qui à aucun moment été associés à la sélection de ces collections-là. Alors oui, bon, indirectement, ça pose la question que vous posiez. Mais non, alors l'évolution du métier de bibliothécaire, bon, moi, ça me pose plein de questions. Alors c'est vrai que dans les instituts français, on a une organisation un petit peu à part. On est un peu la vitrine culturelle des ambassades de France. Du coup, on travaille avec beaucoup de personnel local. Et en tout cas, à Madrid, on a un établissement à autonomie financière, ce qui veut dire qu'en fait, on est quasiment autofinancé par les cours de français qu'on donne. Donc on a un statut qui est à la limite entre le public et le privé, en fait. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages, ça veut dire qu'on peut en effet avoir une liberté, dans le sens où on peut embaucher peut-être des gens qui ont des spécialités plus marquées que peut-être ce qu'on peut trouver dans la fonction publique. Et encore, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de collègues de la fonction publique qui développe des spécialités aussi. Donc, je pense que le modèle hybride, tel qu'on le voit en Finlande, c'est un modèle très intéressant. Après, voilà, c'est sûr qu'impliquer le public, ça peut permettre aussi d'acquérir des compétences que les équipes n'ont pas. Mais c'est sûr que la question de la formation, c'est très difficile parce que, enfin, moi, j'estime que j'ai plus appris en allant visiter des bibliothèques et en discutant avec d'autres collègues presque au cours de formation très, très classique. Et il faut arriver après à rediffuser ça auprès de ces équipes ou eux aussi à leur faire bénéficier de ces rencontres professionnelles. Et c'est pas toujours, toujours facile.
Il faudrait que vous créiez le doc à Madrid, peut-être.
Pardon?
Il faudrait créer doc à Madrid, un peu comme il y a eu à Brest. Ouais. Ben merci, Ophélie. On peut passer à Audric, qui a une expérience également très concrète.
Pardon. Bonjour.
Donc, Audric, qui pilote le centre numérique de la médiathèque et qui a mis en place un projet de Fab Lab mobile qui est en train de devenir un Fab Lab permanent, si je comprends bien. Donc, Lionel parlait de l'importance de sortir de l'espace lui-même, de la bibliothèque, pour aller vers les citoyens. Je crois que vous avez eu cette stratégie-là qui a grandement porté fruit chez vous. Peut-être nous parler de la genèse du projet, qu'est-ce qui a mené à ce choix-là d'aller vers un dispositif mobile et comment la population a reçu le projet.
Alors, je m'excuse si je vais répéter ce que j'ai dit aux gens qui sont venus me voir au stand. Alors en 2013, on a répondu à un appel à projet, l'appel e-inclusion de la région Île-de-France, pour financer un Fab Lab mobile. L'idée qu'il soit mobile, c'était d'aller vers le public qui ne fréquente pas ou peu la médiathèque, parce que Zulis, il y a des zones de quartier, zones prioritaires. On a acheté donc des petites machines qui se transportent facilement. Vous avez vu l'imprimante 3D que j'ai rapportée. Et l'idée, c'est d'aller vers ces gens, leur montrer les machines, qu'est-ce qu'on peut faire avec, les former et les inviter après à venir à la médiathèque pour participer. On a reçu les machines en août 2014, et il y a eu pendant 6 mois des démonstrations un petit peu partout sur la ville, sur le territoire et plus globalement même chez des partenaires. Donc on est allé aussi bien dans les maisons de quartier, les accueils jeunes, le service emploi, la mission locale, on est allé dans le... dans une déchetterie pendant la fête de la récup, justement pour montrer qu'on peut réparer des objets. Voilà. On a fait tout ça. Il y a à peu près une quinzaine d'événements et de lieux stratégiques. On a touché à peu près 600 personnes. Et on a commencé, là, en 2015, des ateliers pour former les gens. Donc, par exemple, pendant une semaine, j'avais un groupe de jeunes, de collégiens. On les a initiés à la 3D. D'abord, on les met devant le logiciel. Voilà, ils essayent de se débrouiller. Puis, ils comprennent comment ça fonctionne. Et puis, entre eux, ils se donnent les solutions. Et puis, moi, derrière, j'accompagne. Et après, on a pu imprimer, par exemple, des objets créés. Donc, on est beaucoup sur le hors-les-murs pour toucher du public, parce que c'est aussi une manière de faire, nous, notre communication et de présenter les ateliers qui sont dans la médiathèque et dans notre réseau plus globalement. Et c'était aussi une histoire de place, parce que dans l'espace numérique, actuellement, il n'y a pas la place pour que toutes les machines soient en permanence, en fonctionnement. On est en train de retravailler là-dessus, justement, pour que les gens qui nous aient vus pendant la démonstration puissent venir aux heures d'ouverture pour créer et expérimenter.
Est-ce que vous avez observé que certains publics, que vous, peut-être qui fréquentaient peu la bibliothèque, ont pu découvrir à quel point la bibliothèque était un lieu accueillant et plus vivant peut-être que ce qu'ils percevaient à prime abord? Est-ce que le projet a permis d'attirer des publics qui fréquentaient peu la bibliothèque?
Oui, alors il y a encore beaucoup de personnes qui sont étonnées de voir tout ce qu'on peut faire dans une médiathèque. Pour donner quelques exemples, on a un atelier de robotique. On joue à Minecraft, on fait du jeu vidéo, on prête des jeux vidéo, c'est un petit peu le nouveau débat là du moment. Et puis on a tout cet aspect de création, donc oui, les gens sont étonnés de savoir que tout ça se trouve dans des médiathèques. Et pour parler de hors les murs, on est allé à Ulysse 2, qui est le centre commercial à côté de la médiathèque, pour tenir un stand où on présentait le réseau des médiathèques et tout ce qu'on y fait. Et les gens sont toujours étonnés de tout ce qui se passe. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a une médiathèque à 500 mètres.
Merci, Audric. Je vois que le temps file. Peut-être qu'on... Je veux juste vous poser une grande question existentielle, puis ensuite on passera à l'Assemblée. C'est un peu ça le thème de la journée, en réalité. J'aimerais savoir, c'est une question à tous mes collègues ici, est-ce que vous croyez que toute cette discussion-là sur la collaboration, les nouveaux espaces, les nouveaux usages, nous force à remettre à jour la mission même de qu'est-ce qu'une bibliothèque dans la cité? Ou alors, au contraire, est-ce que ce serait plutôt une redécouverte de cette mission-là, une réactualisation? Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus.
D'accord. Le micro est ouvert. Oui. Alors là-dessus, moi, je reviens sur un texte fondateur. Alors, en France, on n'a pas de texte de loi qui encadre les missions des bibliothèques. Voilà. Contrairement, je crois qu'au Canada, vous avez... non, je ne crois pas non plus. OK. Donc, on se réfère au texte fondateur. Et un des grands textes fondateurs, c'est notamment la fameuse déclaration de l'UNESCO sur les bibliothèques publiques de 1994. Lorsque l'on lit un des articles, il est marqué que la bibliothèque est une porte locale d'accès à la connaissance, qu'elle a comme mission d'accompagner les gens tout au long de la vie, etc. Je ne l'ai pas de mémoire. Mais on s'aperçoit que ce texte de 1994, je le lis aujourd'hui, tout ce qu'on dit depuis ce matin est complètement dans la mission. Et en 1994, on n'était absolument pas du tout dans ces logiques-là. Donc est-ce que tout ce qu'on explique là... remet en question, ou en tout cas nous réinterroge sur les missions des bibliothèques, moi si je me réfère à ce texte-là, on est toujours dans les clous, et plus que jamais. Voilà. Vas-y,
et juste pour compléter, voilà. Je pense que c'est le monde extérieur qui a changé, c'est-à-dire que la société aujourd'hui, en particulier les outils numériques, l'accès à la connaissance se fait différemment, le numérique transforme le travail, permet effectivement de recréer de l'intérêt pour la bidouille qu'on avait un petit peu perdu. Donc ça revitalise toute l'éducation populaire et de nouvelles formes de fabriquer soi-même, d'empowerment comme on parlait ce matin. Et donc je pense que l'essence du métier, comme dit Lionel, n'a pas bougé, mais simplement le monde a changé. Et par contre, il y a énormément de temps libéré. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Brest, il y avait 10 bibliothèques, et chaque bibliothèque de quartier retapait les notices. Aujourd'hui, plein de travail de ce type-là n'est plus nécessaire. Avec les RFID et autres, on peut presque mettre les choses en libre-service. Et donc, tout ce temps permet d'être en contact avec les utilisateurs et jouer un rôle d'animation. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus dans cette activité d'animation, du faire avec les gens, d'accompagner les gens, parce qu'on est libéré de toute une série de tâches. Et ce qui est important de voir, c'est qu'il y a énormément d'innovations. Simplement, il faut effectivement que ces innovations soient rendues visibles et mises en réseau, et puis les choses vont s'accélérer.
Pour donner un petit ordre d'idée, en ce qui me concerne, pour l'animation, ça représente à peu près un tiers de mon temps de travail. Et il y a en moyenne 10 heures d'atelier d'animation par semaine, rien que dans l'espace numérique, encore plus dans les médiathèques. Donc oui, c'est vraiment... nous, je trouve ça indispensable pour faire vivre les collections. Et dans l'espace numérique, s'il n'y a pas d'animation, venir faire que de la bureautique, voilà, ce n'est pas spécialement intéressant. Il y a plein d'autres choses à proposer.
Moi, je pense que la mission ne change pas. Après, c'est les modalités de mise en œuvre de la mission qui sont remises en question. Et c'est vrai que du coup, ça implique voilà, de passer d'un modèle descendant à un modèle anglo-saxon, n'est-ce pas, top-down, c'est bottom-up, je sais quoi, partir des utilisateurs. Et c'est ça, je pense, qui est vraiment révolutionnaire pour les collègues, quoi, et qui est très déstabilisant parce qu'on ne sait pas tellement comment en procéder. Après, c'est vrai que... le temps gagné, c'est une réalité. En même temps, y a aussi une complexification du métier sur plein d'autres aspects. Il y a aussi tout le temps qu'on doit passer à justifier notre activité, qui est très très long. De plus en plus comptabiliser, évaluer l'activité, et justement évaluer la médiation, c'est difficile. Enfin bon, en tout cas, moi, je trouve ça assez compliqué. C'est vrai que pour le coup, ce qui n'a pas changé, c'est la conception de beaucoup de nos responsables. Non bibliothécaires, la conception qu'ils ont des bibliothèques reste assez figée, et pouvoir les convaincre que tout le temps gagné sur le tangible, on va pouvoir le passer à faire de l'intangible, c'est difficile.
Merci. Sur la question justement, on parle souvent du changement de paradigme, là, du top-down au bottom-up, tu viens de le mentionner. Bien sûr, on ne transforme pas une institution culturelle aussi établie qu'une bibliothèque très rapidement. Ça va devoir se faire par phase. Il y a à la fois un changement organisationnel et un changement culturel qui doit s'opérer. Et pourtant, on parle beaucoup d'un changement quasiment de 180 degrés de culture. Est-ce que vous auriez des arguments à partager à vos collègues par rapport au réalisme d'une telle opération? Quelles sont les premières étapes et aussi, tout simplement, pourquoi ériger ce nouveau paradigme-là comme le nouveau modèle, en fait? Est-ce dû uniquement à cette nouvelle culture qui change la société ou il y a des raisons aussi très pratiques pour lesquelles on devrait davantage faire émerger l'intelligence des usagers?
Juste un petit mot pour dire, la coopération, c'est du plaisir. Et que quelque part, même si c'est... au départ, taper des notices, parce qu'il y avait une habitude, qu'aller au-devant des utilisateurs, c'est un peu compliqué. À faire avec les gens et voir plein de projets qui innovent, c'est beaucoup de plaisir. Et donc, quelque part, il y a une joie, il y a une satisfaction, un accomplissement de soi qui est bien supérieur dans ces pratiques collaboratives.
Et pour parler d'un point de vue Fab Lab, je ne connais pas tout et j'attends aussi que les usagers m'apportent leur connaissance. C'est l'idée de Maker, c'est vraiment une communauté. Donc en tout cas pour le Fab Lab, on est obligé de fonctionner comme ça. Mais ce qui ne m'empêche pas de me former avec d'autres collègues ou dans d'autres Fab Labs.
Oui, je suis entièrement d'accord avec tout ça, mais moi je vais essayer de voir comment après moi au sein de l'organisation on va arriver à faire ça. C'est pas rien ce qu'on dit là, parce qu'il y a quand même l'idée, vous savez, il y a le dire on va faire des dispositifs participatifs et que ce soit un peu prétexte, en fait on va dire on va donner la possibilité à l'usager de faire, mais on sait où on veut l'amener l'usager. En fait on lui donne pas véritablement une possibilité d'interagir avec nous. On voit souvent des comités d'usagers dans des bibliothèques, on leur dit voilà, on a une salle, on a des rayonnages qui sont dans ce sens-là, est-ce que vous pouvez vous donner notre avis pour savoir comment on pourrait améliorer? Finalement, ils disent, bon, on va mettre les étagères dans ce sens-là. Bon. Donc voilà, vous voyez, on a un comité d'usagers, c'est participatif, ils ont donné leur avis. Mais est-ce que finalement, ils ont vraiment participé à améliorer le service? On a toujours des rayons de livres, on ne les fait plus de gauche à droite, mais de haut en bas. Bon, bref. L'idée, je veux dire par là, c'est que ce n'est pas rien tout ça, parce que ça demande quand même l'idée d'accepter qu'on cède une part de pouvoir. Et croyez-moi, c'est loin d'être simple. Lorsqu'on va décider que dans une bibliothèque, vous parlez de quelque chose qui fait l'unanimité, on va parler de la politique d'acquisition, on va acheter des collections, on décide que l'usager va participer à la collection, ce que nous disait le Zoo ce matin, c'est l'idée de dire qu'il y a des gens qui peuvent venir avec des livres qui sont déposés dans la bibliothèque, et s'ils vont rentrer dans la collection de la bibliothèque. Imaginez, c'est-à-dire que même le bibliothécaire ne donne même pas, n'a pas un filtre pour dire non. Bon, alors je ne dis pas si c'est bien ou c'est pas bien, mais ça veut dire qu'il faut... Il y a quelque chose de difficile, hein, et je suis le premier aussi, hein, c'est qu'on accepte de céder une part de la décision auprès des usagers. Et ça, alors je ne dis pas que ce n'est pas bien, hein, on est bien d'accord, mais il faut quand même comprendre que quand on est dans une logique où on est un bibliothécaire prescripteur, hein, ce modèle-là, je suis un peu caricatural...
C'est pareil pour le prof à l'école.
Mais bien sûr, il y a quelque chose qui vient, c'est plus qu'une friction, hein, c'est on prend un mur. Et donc c'est ça la première difficulté, c'est là où voilà, comment on arrive à accepter d'être dans un espace collaboratif, contributif, dans lequel on dit il y a un espace dans lequel vous avez une totale liberté, l'espace 3C que tu connais très bien, dans lequel on dit ben voilà, il est à vous cet espace, vous faites ce que vous voulez dedans. Faites la proposition dans vos structures, vous verrez les réactions, et ou de dire on va donner la possibilité que cette production de contenu ou que ces savoirs qui sont mis à disposition, ben, y a une part de ça qui est cédée à l'usager. C'est pas rien. C'est l'une des grandes difficultés, c'est de comment arriver à faire rentrer cette manière de voir, je ne sais pas comment le décrire, dans des organisations qui ne sont pas du tout pensées de cette manière-là.
Je ne sais pas si tu voulais, Ophélie.
Oui, non, moi je me place toujours aussi un peu du point de vue de la négociation avec le décideur. C'est un peu une obsession chez moi. Mais c'est vrai que, voilà, en général, quand on présente un projet, il faut qu'on sache où on va, quoi. C'est vrai que je pense qu'il y a une insécurité des professionnels vis-à-vis de ces modèles collaboratifs où, au final, on ne sait pas exactement vers quoi on va, en termes de résultats, je veux dire. Et je pense que ça, du coup, c'est assez difficile à défendre. Après, bien sûr, il y a une question de moyens. Et moi aussi, je m'interroge sur l'historique des différentes étapes, quoi. Et je suis très admirative du projet d'Or et Allier qui, d'entrée de jeu, prévoit, inscrit dans l'architecture ses usages dès le départ, en fait. Quand on peut faire ça, c'est génial. Mais quand on hérite d'un lieu et qu'il y a une histoire lourde d'une équipe, etc., c'est assez difficile. Alors, est-ce qu'on commence par ouvrir plus la médiathèque, proposer de nouveaux, enfin améliorer, je dirais, le service traditionnel avant de penser à ces nouveaux usages? Est-ce que ça doit être une priorité, même dans un lieu qui tombe un peu en ruine ou un peu bricolé, etc., parce que c'est le service qui fait tout et la médiation qui fait tout? Pour moi, c'est une vraie question, parce que mener tout de front, c'est difficile en termes de temps, de budget. Et toujours pareil, il faut aussi le justifier au-dessus, quoi.
Juste, Michel, j'avais une question qui n'a pas été débattue aujourd'hui et qui me tarabuste tout d'un coup. Là. C'est la question des communs. Parce qu'en fait, qui d'autre que les bibliothécaires et documentalistes sont les mieux placés pour réinterroger ce que sont les communs dans une ville? Les communs, c'est des choses qu'on partage. Tout le monde connaît Wikipédia, les cartes ouvertes d'OpenStreetMap. Et cette question un peu des communs, qui sont aussi les jardins partagés, et donc toutes les choses qu'on met en partage des savoirs, des recherches, des contenus de formation. Et je pense que c'est une mission, par contre, là, peut-être un peu nouvelle, des bibliothèques, de réinterroger ce que sont les communs sur un territoire. Et j'en profite pour faire un petit peu de publicité, parce que je co-organise avec d'autres personnes le temps des communs qui aura lieu au mois d'octobre, justement pour essayer de mettre en valeur les communs. Parce qu'il y a le domaine public, il y a les œuvres d'auteurs sous copyright, mais il y a aussi ces communs qui prennent de plus en plus d'importance avec le numérique. Et je pense que c'est un nouveau rôle des bibliothécaires d'essayer de travailler justement à enrichir les communs. Des projets comme Wikibrest, tout ce qui est les collectes de photos sur Commons, etc. Il y a 36 façons de participer au commun. Et je crois que c'est quelque chose sur lequel les bibliothécaires pourraient aussi avoir une réflexion autonome.
Absolument. Et là où c'est intéressant, c'est de voir que lorsque les bibliothèques sont productrices de contenus originaux, la difficulté quelquefois que l'on a à faire accepter que ces contenus soient mis sous une licence libre de diffusion, alors qu'ils sont produits par des agents publics, payés par de l'argent public, sur un temps public, à destination d'un public, et on met des copyrights, quelquefois, derrière ces contenus. C'est-à-dire que même nous, bibliothécaires, on dit oui, bien sûr, domaine public, les biens communs, et finalement, nous-mêmes, quand on se met à produire des contenus, on ne place pas ces contenus à valeur ajoutée, avec l'expertise qui est la nôtre, dans les communs. Donc on voit bien qu'il y a une problématique de savoir-être. C'est-à-dire qu'on ne se positionne pas, on veut être garant, mais en même temps, on ne contribue pas. Donc c'est assez intéressant de voir que là, il y a une limite. Je voudrais juste rebondir sur ce que je disais tout à l'heure aussi, en disant que donner à l'usager le pouvoir, la collaboration, etc., etc., mais souvent on fait le constat qu'on dit, voilà, on a mis en place un dispositif participatif ou contributif, et finalement, on s'aperçoit qu'en face, on a peu de gens qui réagissent là-dessus. Et c'est là où c'est intéressant de dire qu'il ne suffit pas de mettre en place des dispositifs de contribution, mais est-ce que nous-mêmes, nous mettons le citoyen en capacité d'agir, la fameuse capacitation ou l'empowerment, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire un dispositif de participation, est-ce que la population qui est en face de nous est en capacité d'être dans une situation de participer ? Et là aussi, il y a notre rôle de bibliothèque, c'est-à-dire que la bibliothèque peut totalement dire « je mets en place des dispositifs ou participation de l'usager », mais est-ce qu'au final, je donne une chance à ceux qui ne sont pas encore dans des dispositions pour pouvoir participer pour qu'ils puissent être dans une mise en capacitation de la participation. Et c'est là où on peut être dans des Fab Labs, des choses, sont des outils qui permettent justement d'aller dans ces éléments-là. Donc on voit bien que c'est une forme d'écosystème. Hein, il faut à la fois proposer des dispositifs de participation, il faut que nous-mêmes nous contribuons à ce savoir-là en mettant ce que nous mettons à disposition de tous sous des licences libres de diffusion, mais il faut aussi que nous puissions mettre en place des éléments qui permettent aussi à ceux qui ne sont pas en capacité de participer de pouvoir le faire, donc de les accompagner, la littératie numérique, la fameuse inclusion numérique dont le Conseil national numérique a parlé. Donc on voit bien qu'on est dans un écosystème, on n'est pas dans une sorte d'outil qui serait mis en place pour dire, voyez, on fait de la contribution.
Merci. Je crois que ça dresse un portrait de toute la complexité des enjeux auxquels on fait face. On pourrait continuer à parler entre nous très longtemps, mais j'aimerais donner la parole au public s'il y a des interventions ou des questions. Et je crois qu'une façon intéressante de faire ça, c'est de peut-être démarrer une discussion ouverte sur tous les enjeux qui sont ici. Il n'y a absolument aucune intervention. Il faut que quelqu'un brise la glace. Ah.
Merci, Marc Roset, Ville de Paris. Je vais rebondir un petit peu sur la dernière intervention de Lionel Pujol quand il parlait de la capacité des usagers. Parce que pendant toute cette journée, on a parlé de l'usager un petit peu de façon abstraite. Et on voit par exemple sur cet exemple, on voit des gens autour d'une table et je me demandais si finalement toutes les opérations dont on a parlé, ça ne concernait pas un certain type peut-être d'usager qui va être plus prompt à participer à ce genre de choses. Et je me demandais si on ne laissait pas de côté certaines personnes qui justement ne se sentent pas très à l'aise dans ce type de démarche, sont un petit peu hésitent à participer à quelque chose de collectif lorsque les règles du jeu, et c'est ça qui est propre à toute cette activité dont tu as parlé aujourd'hui, lorsque les règles du jeu justement ne sont pas très bien définies dès le départ. Hein, voilà.
Je pense là on va revenir un peu sur aussi le rôle des élus. Il y a aussi une question de volonté politique de demander à ce que les bibliothèques soient présentes au pied des tours, qu'elles prennent des initiatives avec des collectifs d'habitants, de journaux de quartier, etc. Donc la possibilité d'agir existe. Il y a quand même beaucoup d'exemples en France d'actions volontaristes de ce type-là, que ce soit dans des petits villages ou que ce soit au pied des tours. On arrive à avoir des résultats très importants en termes de fréquentation dans les quartiers populaires. Mais c'est vrai qu'il faut y mettre des moyens et avoir une volonté politique d'aller dans ce sens-là. Et justement, dans les Fab Labs, l'intérêt de mettre des Fab Labs dans les bibliothèques de quartier, qui sont au cœur des quartiers populaires dans un certain nombre de villes. C'est aussi de faire en sorte que les Fab Labs soient accessibles aux gens des quartiers qui, en général, restent dans leur quartier et ne sortent pas. Donc moi, là, je renvoie aussi, je dirais, à la responsabilité politique des élus d'une collectivité.
J'aimerais entendre Audric, en fait, sur la question des... cette question-là des publics et de l'accessibilité à des publics qui sont peut-être absolument des non-initiés ou des personnes aînées ou des enfants, des personnes à mobilité réduite. Est-ce que vous avez eu est-ce que vous avez employé des stratégies pour rejoindre des publics qui peut-être ne seraient pas les publics naturels des Fab Labs au premier abord, donc des publics plus technophiles?
Déjà, en faisant du hors les murs, on croise forcément des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et après, c'est par le biais d'ateliers spécifiques qu'on va intéresser des gens. Par exemple, on parlait d'OpenStreetMap. On a fait des cartes aux parties, donc on se balade dans la forêt et on va noter les arbres ou les espèces de plantes sur une carte. Et puis ensuite, on va partager tout ça. Et ça peut intéresser des gens qui ne sont pas spécialement dans l'informatique, mais qui ont des connaissances à partager. Et ça fonctionne bien pour le coup.
Oui, je voulais juste rebondir sur votre remarque qui est très juste. C'est pour ça que je parlais de la mise en capacité qui est fondamentale en fait. C'est-à-dire qu'il faut justement élargir le champ des citoyens qui peuvent participer. Mais là, ce n'est pas que le propre de la bibliothèque. Là, on est dans des dispositifs de politique publique et là, c'est beaucoup plus large. Juste quand même pour rebondir, dire que la participation et l'innovation, si on prend la bibliothèque laboratoire, hein, finalement, c'est deux choses. La bibliothèque laboratoire, c'est d'une part des nouveaux services, de nouveaux espaces, c'est ce que l'on décrit, et on l'a vu, mais c'est aussi une méthodologie. C'est quand on a le Zoo ce matin qui explique que la manière de penser la bibliothèque a été faite avec les habitants, c'est-à-dire que dès le départ, on les a impliqués dans la réflexion des usages possibles, des espaces possibles, de ce que proposer une bibliothèque, on est en train de mettre en capacité, justement, les usagers de cette bibliothèque à la participation. Donc, on voit bien que pour ce qui est important, c'est que dans la participation, il y a ce qui est de l'ordre des espaces et des services novateurs, innovants que l'on peut proposer, mais il y a aussi, pour moi, c'est indissociable, mais c'est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre, c'est la méthodologie aussi qu'on va utiliser pour développer ces nouveaux usages et ces nouveaux services. Et c'est les Living Labs, hein, ce qu'on appelle les Living Labs, c'est-à-dire c'est quelque chose à long cours, c'est inventons la bibliothèque, ce qu'on nous a décrit. Et pour moi, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette notion de la mise en capacité, parce qu'effectivement, si on ne fait pas aussi cet effort, mais là, il n'est pas dépendant de nous, effectivement, on va tourner avec des communautés très, très concernées, très actives, et finalement, au final, on n'est plus dans la mission qu'on se disait tout à l'heure. Ça veut dire que ce n'est pas simplement que mettre en place un espace participatif, mais qu'est-ce qu'on met derrière pour qu'il y ait une mise en capacité de la population, pour qu'elle soit elle-même acteur, actrice du moins, de ces espaces-là. Et c'est ça la vraie problématique. C'est là où pour moi, je pense qu'aujourd'hui, la méthodologie n'est pas... On n'a pas encore digéré cette méthodologie qui fait qu'on met en capacité par la suite les futurs usagers ou les usagers potentiels ou réels.
À l'échelle de la ville de Paris, vous en avez des exemples dans votre réseau. Moi, je ne sais pas, j'ai vu les collègues de Louise Michel qui étaient là. Je ne sais pas s'ils sont toujours là, hein, mais voilà. Ils en ont peut-être marre toujours qu'on fasse appel à eux. Mais c'est vrai que vous avez quand même réussi à mettre en place, c'est même les usagers d'ailleurs qui vous ont proposé de faire des choses sans même aller vers eux, mais aussi parce que le cadre s'y prêtait tout particulièrement. Hein. Vous avez aussi une autre bibliothèque en Bretagne, Saint-Aubin-du-Pavail, c'est un tout petit village, 700 habitants. Il y a des gens qui viennent de tous les villages voisins. Ils sont à un taux de fréquentation démentiel et c'est un bibliothécaire et 20 bénévoles, mais ils arrivent. Il y a une telle synergie, une telle dynamique dans cette bibliothèque qui draine toute la population du village. Il y a des actions participatives à l'échelle de tout le village, bien en dehors de la bibliothèque. Et c'est vraiment une dynamique humaine et ça va bien au-delà du numérique parce qu'on a beaucoup centré le propos sur le numérique. Mais la démarche, elle est avant tout humaine. Hein. C'est ça qu'il faut réussir à faire. Alors, je ne sais pas, pour compléter ça, peut-être un mini témoignage. C'est gentil, merci. Je sais, vous en avez marre, mais par sympathie.
Alors, bonjour, Hélène de Louise Michel. On n'était pas là pour intervenir au début. Oui, sur la mise en capacité des usagers. Nous, c'est pas ce mot-là qu'on emploie, mais c'est vrai que c'est un petit peu ça au cours de notre expérience. Que vous dire? En gros, ben, on a beaucoup aimé ce que tu as dit, Vincent, ce matin sur le omago, le hanging out, messing around et geeking out. Voilà. C'est vrai que quand on favorise le hanging out, c'est-à-dire voilà, vous avez le droit de vous approprier le lieu, et ben après ça marche quoi. Voilà. Au bout de disons un an et demi de flânerie intense, les usagers ont commencé à nous proposer des choses, et c'est pas uniquement les usagers qui sont concernés par ce type de pratique, c'est aussi des gens voilà qui viennent, qui proposent, qui disent moi je sais faire je sais pas moi des fleurs en crochet. Et ben venez, faites un atelier sur les fleurs en crochet. Enfin voilà, ça peut être des choses très très petites, parfois peut-être très anodines, mais qui drainent beaucoup de public autour de tout ça. Voilà.
Juste pour ajouter un petit mot sur la position du professionnel là-dedans, qui est intéressante, que vous avez évoqué très justement. Le bibliothécaire, à l'origine, c'était quelqu'un de prescripteur. Non, on avait besoin de lui pour accéder à l'information, accéder à la connaissance. Depuis le web, on n'a plus besoin de lui. Alors le bibliothécaire, il se sent un peu mal, il se sent seul, et il aimerait qu'on l'aime. Donc il a développé le côté animation. Je vais animer des trucs, et je vais être cool, et aimez-moi encore. Mais il me semble qu'il y a encore un passage à faire, encore au-delà de ça, qui est au-delà d'être le prescripteur, après avoir été l'animateur, c'est d'être le facilitateur. C'est-à-dire d'être en capacité, justement, d'être dans la capacitation, de donner l'ensemble des clés, qu'elles soient logistiques, mettre à dispo un espace, mettre à dispo du matériel, mais aussi symboliques, c'est-à-dire faire en sorte que les gens se sentent suffisamment en confiance dans un lieu pour qu'ils s'en emparent, pour qu'ils soient capables de proposer eux-mêmes leur propre service et qu'ils soient capables d'animer et d'habiter ce lieu qui est la bibliothèque. Et c'est modestement ce qu'on essaye de faire à Louise Michel.
Merci Louise Michel. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions, questions du public? Oui, là-haut, le micro arrive.
Merci. Donc, Sophie Agier, je travaille dans les médiathèques de Cergy, dans le Val d'Oise. Et je voulais rebondir ce que Julien vient de dire justement sur le bibliothécaire qui devient animateur. Et je pense que c'est une notion qui est encore assez floue chez les bibliothécaires aujourd'hui, c'est que on sort des collections pour aller vers l'usager. Et pour aller vers l'usager, il faut un peu se mettre en scène, il faut un peu sortir des positions qu'on a, sortir de la banque de prêt. Et je pense que même si on est tous à peu près convaincus qu'il faut avoir des nouveaux publics, qu'il faut aller vers les usagers, et dans les faits, c'est pas forcément évident. Et du coup, on a les usagers qui viennent vers nous, mais on peut des fois être un peu, pas en capacité de les accueillir. Et se retrouver confronté à un usager qui en sait plus que vous sur un sujet, c'est pas forcément évident à accepter non plus. Voilà. Une petite remarque.
Alors, est-ce que vous avez des... Est-ce que par hasard vous auriez des solutions à ce grand problème?
Il y a une autre question, mais juste pour dire que ce que vous avez décrit, c'est exactement cette histoire de pouvoir. C'est-à-dire que finalement, l'idée que je vais moins en savoir que la personne qui est en face de moi deviendrait un problème, alors que ça n'est pas un problème du tout. C'est intéressant de voir ce positionnement où du coup je vais moins savoir, donc du coup je suis moins crédible. Mais pas du tout. Hein. Le facilitateur, c'est pas...
Mais c'est un problème général, c'est-à-dire que le cadre dans l'entreprise, il en sait peut-être moins que l'employé qui a une idée, l'élu en sait peut-être moins qu'un habitant, et le prof en sait moins que l'élève, mais c'est pas grave.
Alors juste pour rebondir sur cette histoire de facilitation, une première chose qui m'a interloqué sur le déroulé de sa journée, même si elle est très bien organisée, et je remercie Silver et toute l'équipe de la BPI, c'est que les participants ne participent pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas participé au contenu, à l'élaboration du contenu de cette journée. Quelque chose qui se fait énormément dans les conférences de coworking, ce sont des un-conférences, donc c'est anti-conférences. Il y a toujours un moment où tous les participants mettent des sujets à disposition et ça se finit en petits ateliers, c'est mieux, où tout le monde participe et où du coup les personnes de la salle transmettent leur savoir de manière horizontale et pas du tout en top-down. Voilà, c'était une première remarque. Après, je voulais rebondir sur l'histoire de, voilà, on va faire des nouveaux usages et de nouveaux espaces collaboratifs, mais on va s'adresser à une minorité. Les chiffres, je ne les ai pas exactement en tête, mais 80% de la population ne fréquente pas les médiathèques en France. Voilà, donc après, je me dis que si on fait des nouveaux usages, on peut toucher de nouvelles personnes, ce n'est pas très grave si ça s'adresse à une autre minorité que celle qu'on a l'habitude de connaître. Et je rebondis sur ce que disait Lionel. Moi, je suis aussi assez pessimiste sur l'avenir des médiathèques, à tel point que j'ai quitté les médiathèques, puisque j'ai fait 10 ans de carrière en médiathèque avant de lancer un projet d'espace de coworking. Et parce qu'effectivement, ce franchissement, ce cap, ce saut, ce changement de mentalité à effectuer, de passer de prescripteur à simplement reconnaître qu'on est juste une personne qui va aider, enfin, qui va mettre à disposition un lieu, un savoir. Peut-être, on a une connaissance, on a des compétences, mais on ne sait pas tout. Et ben, il y a énormément de réticence au sein des équipes. Alors, c'est pas toujours la direction, hein, parce que quand on discute avec des collègues, on dit « oui, mais ma direction ne veut pas » et tout. Non, non, il y a des directions qui font bien leur travail, on a des réticences au sein des équipes. Ben, voilà, au bout de 10 ans d'énergie dépensée, essayer de faire changer un peu les choses, ben, je me suis dit « je vais aller voir un peu ce qui se passe dans la vraie vie ». J'ai envie de reprendre la devise des X-Files, la vérité est ailleurs. Il se passe plein de choses et je crains que si on ne se décide pas à effectuer ce changement de mentalité, à aller voir ce qui se passe ailleurs, ben, le modèle anglais de 10% de disparition des médiathèques va arriver rapidement en France. C'est un simple constat et j'aimerais juste réagir échanger avec vous là-dessus parce que les médiathèques, ça me tient à cœur. J'ai adoré travailler dans les médiathèques, c'est quelque chose, je pensais faire bouger les choses et voilà, la soif d'échanger et tout ça. Et j'en suis parti parce que je sens qu'on a un moment charnière. Malheureusement, je suis assez pessimiste sur l'avenir.
Peut-être juste faire une citation de David Lenkis, qui est un professeur aux États-Unis, plus sous les sciences de la formation et des bibliothèques, qui a fait deux citations que je trouvais intéressantes. Il y a une première où il dit c'est pas Amazon, c'est pas Google, c'est pas Apple qui vont tuer les bibliothèques, c'est notre manque d'imagination, notre manque de capacité à justement avancer avec les nouveaux usages qui arrivent. Je trouvais que c'était un peu dur hein, comme texte, parce qu'on aime bien s'autoflageller comme en bibliothèque. Mais c'était assez intéressant parce qu'il repositionnait le problème en disant que finalement, le problème, ce n'est pas finalement les nouveaux usages, c'est nous, notre capacité à les intégrer. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et ensuite, il avait fait une autre citation que je trouvais pas mal, qui disait qu'une mauvaise bibliothèque construit des collections, une bonne bibliothèque construit des services, et une grande bibliothèque, elle construit des communautés autour de son service. Et je trouvais que c'était exactement notre problématique qu'elle est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a effectivement un moment où... Alors moi, mon pessimisme n'est pas les bibliothèques vont disparaître, c'est pas du tout ça. C'est il y a une crise, pas une crispation, c'est peut-être un peu fort, mais il y a un temps là où on est entre deux et on a un peu de mal à soit franchir ce pas ou pas. Mais parce qu'on hésite, soit parce que la structure dans laquelle nous sommes ne va pas nous permettre de pouvoir franchir ce pas aussi.
Bonjour, ici. Je m'appelle Virginie Tac, je suis coordinatrice du réseau Eurequa pour la Belgique. Et donc moi, je voulais plutôt venir avec une touche d'optimisme, parce que donc, bon, je suppose que vous situez tous, il y a Eurequa, le site web, et Eurequa sur Facebook. Et là, en fait, je pense que les usagers nous entraînent. Je ne veux pas dire malgré nous, mais finalement, il y a des personnes qui viennent contribuer, répondre eux-mêmes aux questions, etc. D'autres bibliothécaires qui viennent me dire « Oui, mais je pensais qu'on répondait juste à l'aide de nos collections, et puis je dois répondre à tel lecteur qui est à Lyon, mais moi je suis à Charleroi, donc en Belgique. Est-ce que je dois répondre? Je ne comprends pas trop, etc. » Et donc, en fait, finalement, l'outil que Silver et l'équipe a mis en place, eh ben, c'est pour moi cette entrée vers la capacitation qu'on a donnée aux usagers et qui viennent nous bousculer dans ce qu'on fait et donc ils vont nous pousser à nous repositionner. Quoi.
Voilà. Ben, vous décrivez, c'est par le faire. Ouais, voilà. C'est-à-dire que les bibliothécaires qui sont dans le faire, finalement, basculent là-dessus. Et c'est là où nous, on a les échanges que j'ai parfois avec les collègues au Québec, où quelquefois, on est assez bon pour débattre, on fait des journées d'études, on réfléchit, et puis à un moment, il faut faire. Et c'est là où, voilà. Donc, faisons, et on arrivera, je pense, à avancer là-dessus.
Qu'est-ce qui pourrait encourager le milieu des bibliothécaires à davantage faire, vous croyez, disons, en France? C'est peut-être trop existentiel, encore une fois. Il y a une autre question?
Oui, en fait, sinon, c'est plutôt une réaction justement à toutes ces questions, tout ce qui a pu être dit sur les personnels et la difficulté peut-être à faire évoluer, à mettre en œuvre. Moi, il me semble qu'en fait, je vois beaucoup les gens en formation, je suis formatrice, et donc beaucoup sur la nouvelle bibliothèque et tout, voilà, tout ce dont on parle depuis ce matin. En fait, les réactions, beaucoup sont... d'une part la question de l'effet de mode, hein, puisqu'en fait là les choses évoluent très très vite. On parlait du troisième lieu il y a 2-3 ans, maintenant on parle du collaboratif et les choses évoluent à très très vite, et pour beaucoup de bibliothécaires en fait le sens général n'est pas très évident. Et moi je pense qu'en fait si on sortait d'une part de l'injonction du il faut de voilà les bibliothèques ça doit évoluer comme ça, à quel sens général ça a de faire ça ? C'est quoi l'intérêt collectif, d'une part ? Et aussi, c'est quoi l'intérêt individuel pour chaque bibliothécaire d'évoluer de cette façon ? En fait, on parle beaucoup... Enfin, du coup, les collègues et les personnels parlent beaucoup des dommages collatéraux. Mais en fait, si on en parlait des bénéfices collatéraux, hein, peut-être qu'on arriverait à les faire changer. Moi, je vois que dans les formations que j'anime, on passe en général 2 jours sur le pourquoi. Et on parle assez peu du comment, parce que le comment ils le trouvent une fois qu'ils ont la réponse au pourquoi. Et là, voilà, il me semble qu'on est beaucoup dans, faut y aller, c'est l'évolution du métier, c'est ce que les gens demandent. D'accord, mais qu'est-ce que ça va apporter concrètement ? Et bien sûr qu'on a des réponses à ça, mais encore faut-il qu'on se penche là-dessus, qu'on en discute avec les gens et qu'on laisse les personnels réfléchir aussi là-dessus. Et une fois qu'ils auront leurs réponses, alors ils suivront, et même ils proposeront, et même ils auront des initiatives et des idées, et c'est ce que moi j'ai pu constater dans mes équipes, qu'à partir du moment où ça faisait sens, alors ils tirent le wagon, même devant vous. Hein.
Michel, je crois que... Oui,
moi j'ai quand même été frappé, enfin, entre les conférences ce matin et puis les interventions tout à l'heure dans la salle, qu'il y avait quand même, on retrouvait les mêmes mots du passage de l'accès à l'animation, puis à la facilitation ou à l'augmentation de la capacité. Donc rien que ça, c'est vraiment extrêmement important. Et je pense encore une fois que dans l'éducation nationale ou dans beaucoup de ou dans les collectivités territoriales, on n'en est pas là. C'est-à-dire, je pense que vous avez un cran d'avance dans ces métiers sur ce type de réflexion. Et quand je vois la participation volontaire sur des réseaux comme Doc à Brest, où il y a 180 personnes, je ne sais pas combien il y a de documentalistes sur Brest, mais tu vois, c'est quand même énorme. Je vois qu'il y a effectivement cette recherche de sens commun, elle me semble faire sens. Après, derrière, effectivement, il faut que ça se construise. Et je crois qu'on a besoin de raconter des histoires. C'est-à-dire que ce qui a été dit tout à l'heure, il faut effectivement que les uns les autres vous racontiez des histoires pour qu'on puisse construire ce sens collectif nouveau.
Émilie Nguyen, la bibliothèque départementale. Je voulais compléter, moi... sur la question, je suis plutôt optimiste sur le devenir des bibliothèques parce que aujourd'hui on est beaucoup questionné par les élus sur la question de la rentabilité sociale des lieux, et les bibliothèques, si elles évoluent, si elles se posent la question des publics et de l'implication qu'ils peuvent avoir dans la structure, c'est aussi pour apporter une rentabilité sociale et qui tend à se développer aujourd'hui.
Je pense qu'il faut intégrer la collaboration dès le mode de management en fait, de l'équipe. Et essayer. C'est vrai que les fiches de poste sont souvent assez restrictives et figées. Et essayer non pas de changer les fiches de poste en disant on va te rajouter des tâches, voilà, mais en essayant de partir du désir aussi. Alors c'est plus difficile sans doute dans des grandes équipes, mais en tout cas dans des équipes peut-être moyennes, essayer de partir aussi du désir individuel des agents, de voir là où ils sont bons, aussi leur passion aussi à eux, et voir comment... je pense qu'en appliquant cette modalité de travail déjà en interne, ça peut ensuite inciter alors donner envie de développer ça aussi auprès des publics. Et ça, je ne sais pas si c'est quelque chose qui se développe, mais je pense que ça porte ses fruits. Et je suis assez optimiste sur le fait que les bibliothèques ont quand même un rôle à jouer, parce que ne serait-ce que d'être alerté sur ces questions, pouvoir en parler, de pouvoir alerter ses décideurs là-dessus, c'est se positionner quand même indirectement, même si après, il faut le faire. Voilà.
C'est intéressant, cet argumentaire autour de la rentabilité sociale ou le rôle social de la bibliothèque dans la communauté. Je pense que c'est une des pistes aussi de réflexion sur pourquoi tendre vers ce type de mode de fonctionnement ou de pratique collaborative. Est-ce que vous avez des éléments de réflexion par rapport à l'impact social que peut avoir un lieu participatif en bibliothèque versus une bibliothèque peut-être plus classique?
Ben là, tu poses la problématique de comment on évalue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'IFLA, nous avons eu à Lyon une intervention d'une collègue de Barcelone, qui était extraordinaire, qui justement a essayé d'établir une grille d'évaluation pour pouvoir mesurer justement cette rentabilité sociale au jour d'aujourd'hui. Comment on arrive à évaluer avec les grilles que nous avons aujourd'hui C'est-à-dire que ça, c'est un argument extrêmement important auprès des tutelles et des élus, de dire qu'une bibliothèque, il y a une rentabilité sociale. Sauf que comment on arrive à la restituer de manière avec des données voilà. On n'a pas de grille d'évaluation, mis à part de dire qu'on a eu des compteurs de fréquentation, je suis très caricatural encore une fois, au niveau de prêt, on voit bien que le prêt n'est plus l'usage qui mesure la performance, le principal qui doit mesurer la performance de la bibliothèque, on est bien d'accord. Donc aujourd'hui, on est un peu en difficulté pour évaluer ces éléments-là. Mais peut-être que vous avez certainement des éléments de réponse là-dessus.
Oui. C'est ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on fait partie d'un groupe de l'ISO, de l'AFNOR, en fait, la version française de l'ISO. Et il y a deux normes en fait, qui sont très importantes sur l'évaluation. La norme 11620 et la norme 16434. Alors, ça ne paraît pas très sexy comme ça. Et ces normes, elles sont vraiment intéressantes. C'est un travail qui est plutôt anglo-saxon. La norme 16434 n'est pas encore traduite. Mais justement, elle aborde pleinement la question des indicateurs justement, pour rendre lisibles les impacts sociétaux d'une bibliothèque sur un territoire. Elle ne sera pas traduite en français et elle est très peu accessible parce que la politique de l'AFNOR et de l'ISO, ce n'est pas du tout de l'open data, c'est même quasiment vraiment le contraire. Ces normes, elles sont difficiles d'accès, mais elles sont très intéressantes et on aura l'occasion, effectivement, via l'AFNOR, de proposer un livre blanc hein, dans les prochains mois sur la question et peut-être même une journée d'études pour justement mettre en avant ces techniques d'évaluation justement pour parler aux décideurs et puis pour rendre compte de tout ça, en fait.
Toronto, qui évaluait à plus de 5 dollars canadiens le retour sur investissement d'un dollar investi en bibliothèque.
Excellente étude pour donner des arguments, effectivement. L'impact économique indirect des bibliothèques. Je crois qu'Ophélie voulait
ajouter quelque chose. Non, c'est la même chose en Espagne. C'est peut-être ce à quoi tu faisais référence très récemment. Il y a une étude qui est sortie de la FESABIT, c'est la Fédération des associations bibliothécaires documentalistes, qui entend mesurer l'impact social et économique des bibliothèques. Alors après, c'est... Voilà, même après avoir lu l'étude, on ne sait pas encore trop comment faire, parce qu'il y a une vision très consumériste de la bibliothèque où voilà, on évalue le retour sur investissement, les économies potentielles faites par les utilisateurs si jamais ils avaient utilisé les mêmes services, mais dans des services payants, enfin s'ils étaient allés en librairie, s'ils avaient acheté les DVD, etc. Et bon, il y a quand même certains éléments sur la proportion de chercheurs qui ont fait appel à des bibliothécaires, ce que ça leur a apporté dans leurs chercheurs, dans leurs publications futures. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas en fait si c'est bien de penser finalement de produire des études comme ça. Enfin, si on se met sur le même créneau que le privé, ça va être compliqué. Mais... Enfin, je vous invite à aller lire cette étude.
Et il y a une...
Là, c'est à moi. Super. Donc Isabelle Bacon, médiathèque Anne Fontaine à Antony. Je voulais rester optimiste parce que j'ai bossé dans le privé avant. Et il y a des choses qui ne marchent pas comme en médiathèque, rassurez-vous. Ou comme en collectivité territoriale, il y a des lourdeurs dans des grandes entreprises et des choses qui sont extrêmement difficiles à faire bouger. Comme on est dans un changement de société, hein, on peut quand même être optimiste, ne serait-ce que pour le prêt des documents, quand on voit ce qui se passe en Finlande. Bon, ils ont l'habitude tous d'aller au moins une fois par mois à la bibliothèque. J'ai trouvé ça merveilleux. Alors je suis allée demander à l'OTA par quel moyen de coercition ils faisaient venir les gens une fois par mois. Mais bon, ils ont le même souci de perdre les ados. Mais après, une fois que ces ados ont grandi, ont fait des mômes, ils reviennent à la bibliothèque, un petit peu comme chez nous. Mais nous, c'est encore sous-utilisé. Bon, c'est un équipement, on va dire, c'est peut-être sous-utilisé. Alors on peut accueillir les gens. Des fois, c'est difficile de mettre en place de dire aux gens, appropriez-vous la médiathèque. Ils disent, ah ben non, vous travaillez très bien, nous ça nous va très bien, les solutions clés en main, on vient, les pieds sous la table, et c'est parfait. Voilà, mais sinon... Comme on est dans un changement de société, on va peut-être évoluer aussi vers une forme où on aura moins de livres chez nous, à nous, mais plus de livres à la bibliothèque. Il y a déjà des boîtes à livres qui fleurissent dans les médiathèques municipales, c'est-à-dire des boîtes où les gens viennent donner des livres, on trie ceux qui sont en bon état, etc. Et puis d'autres gens viennent les récupérer. Donc il y a quand même toujours des petites solutions qui se mettent en place petit à petit. C'est vrai que c'est petit, c'est pas gros, mais ça donne quand même de l'espoir. C'est vrai, je voulais rebondir aussi sur le problème de la communication. Quand c'est donner à voir, c'est passionnant, mais tant qu'on est dans une organisation top-down, on est un peu coincé. C'est-à-dire que s'il faut que le document qu'on va rédiger pour mettre en ligne, il doit passer par trois personnes dans la hiérarchie pour une validation, plus une autocensure parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait ne pas plaire à l'élu à la culture. Bon, ben voilà, là pour l'instant, il y a encore des facteurs limitants, quoi. Voilà. C'était juste tout. Mais quand même, il y a de l'optimisme partout, là. C'est pas gros, mais ça se voit petit à petit, quoi.
Alors, pour être optimiste, peut-être l'heure. Juste pour vous dire, alors, je suis entièrement d'accord, c'est vrai qu'on tend vers le. Un truc qui est un peu. Dire que quand même aux États-Unis, vous parliez des livres, hein, il y a trois bibliothèques aux États-Unis, ils n'ont pas de livres du tout. Voilà. Dire qu'il y a même. On a des bibliothèques qui n'ont plus de support papier. Et pourtant, il y a des bibliothèques. C'est ça qui est intéressant. Parce que la valeur ajoutée, hein, d'une bibliothèque, elle est humaine, tout simplement. C'est-à-dire que si vous enlevez cette valeur ajoutée-là, ça, vous perdez tout le bénéfice, entre autres, d'une bibliothèque. Il faut l'être convaincu. Et l'une des premières valeurs ajoutées humaines, c'est le bibliothécaire. Alors, le bibliothécaire qui était prescripteur, animateur et facilitateur. Il faut être convaincu de ça. C'est-à-dire qu'on est la valeur ajoutée des bibliothèques. Elle est bien là. Alors, elle est humaine, nous, en tant que facilitateur, et la communauté qui est en face de nous. Et c'est bien, pourquoi je prends l'exemple des États-Unis, c'est qu'on a pu voir qu'il y avait des bibliothèques qui disaient, mais s'il n'y a plus de livres, alors pourquoi il y a une bibliothèque? Eh bien oui, il y a une bibliothèque parce que la valeur ajoutée, elle est bien humaine. Donc c'est très optimiste en fait, parce que nous, on est toujours là.
Il est déjà 17h, voilà. Donc on va devoir conclure. C'est ce que Sylvain voulait dire.
Voilà. Juste une dernière question, s'il vous plaît.
Ah, pardon.
Je termine, je vais être brève. Valérie Griffy, Toulouse Métropole, Mission Lecture Publique. C'était une très très belle journée, en tout cas pour Toulouse et les enjeux que nous on dessine côté Toulouse Métropole pour la mise en réseau de nos bibliothèques. On y aura appris beaucoup de choses, d'autant plus tout à l'heure vous parliez des collectivités territoriales, ne serait-ce que sur notre territoire. Nous on a, elles sont toutes les collectivités sont au régime sec, on a perdu pour partie 50% dans les acquisitions dans certaines communes. Mais il y a une chose qui me surprend quand même dans la journée, il y a des mots que je n'ai pas entendus, des mots depuis que je travaille dans la lecture publique qui normalement font partie de nos fondamentaux, qui est la chaîne du livre. Pas une seule fois le mot libraire, pas une seule fois le mot éditeur, pas une seule fois le mot auteur, pas une seule fois le mot manifestation littéraire, vie littéraire. Nous avons tous centré toute notre réflexion sur l'enjeu du lieu des médiathèques, mais les médiathèques c'est un territoire et des acteurs. Donc voilà, c'était un peu ce qui m'aura manqué dans le repositionnement du lieu, puisqu'on a de longtemps et de longue date traité cet équipement culturel comme des équipements intégrés dans les politiques culturelles, d'une part à échelle communale, mais intégrés dans les politiques de lecture publique. Et on est bien, que ce soit la DRAC, le CRL, les métropoles, enfin les communautés d'agglo et les Comcom, sur le champ de la lecture publique, qui déjà ont un mal fou et on aboutit à peine, à réussir à structurer des politiques culturelles, en termes d'aménagement de territoire déjà intégrées. Donc c'est bien, c'est une transition, il faut accompagner ces transitions et toutes les lieux pour les plus émergents se posent les questions de ces transitions-là, y compris en milieu rural. Mais je m'inquiète un peu, en tout cas, de cette question de l'équipement dans la chaîne du livre et de la présence artistique et des projets artistiques.
Oui, ben, voilà. Sylvain, côté de temps, est-ce qu'on vous donne le temps de discuter de cet enjeu ou on doit conclure?
En fait, si, on peut tout à fait rebondir sur cette dernière question, juste avant la conclusion par Annie Dourlan dans 3 minutes. Mais si vous voulez dire un mot par rapport à cette intervention, messieurs, dames de la table.
Tout ce que l'on a dit depuis ce matin, rien ne s'oppose à ce que vous dites. Ça sous-entendrait que parce qu'on n'en a pas parlé, qu'on est en train de dire que ça n'a plus d'intérêt. Mais rien ne s'oppose à ce que vous dites. Oui, on est bien d'accord, et ça ne s'oppose pas à ce que nous avons dit depuis ce matin. Tu nous as présenté les ruches
d'art.
Voilà. Il ne faut pas opposer.
Voilà, donc effectivement, on a parlé de savoir et de savoir-faire, donc on est vraiment dans le sujet. On va donc conclure cette journée en remerciant en fait peut-être d'abord tous les participants à la table ronde d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, merci également à Vincent, l'animateur de cette table ronde. Voilà, et on va accueillir donc Annie Dourlan, qui est chef de la délégation nationale, de la délégation à la coopération nationale et internationale à la BPI, qui va nous dire un mot de conclusion. Merci.